RMC, Intégral Foot, Roland Courbis, Arnaud Souk.
17h05, vous êtes bien dans l'Intégral Foot sur RMC. Coach, ça te dérange pas si on repart de Neymar?
Bah écoute, pas du tout, je me suis habitué, ça au contraire, ça me manquerait.
Bon, parce que tu sais qu'il y a une espèce de petit clash, une espèce de gros clash d'ailleurs qui est en train de naître.
La solidarité des enfants gâtés.
La solidarité des enfants gâtés, exactement. Juste pour que Mohamed va nous donner les informations dans quelques instants, mais juste pour remettre dans le contexte, en gros, bah le Barça, ils sont tellement mauvais joueurs là sur cette affaire Neymar, ils sont tellement vexés, mais comme des poux de s'être fait piquer Neymar, ou en tout cas d'être sur le point de se le faire piquer, que bah ils en appellent à la solidarité, tu sais, des clubs historiques de l'Europe. Je pense à la Juventus Turin, je pense au Bayern Munich, tu sais, tous ces grands clubs qui se partagent les compétitions européennes, qui se partagent les trophées, qui se partagent les grands palmarès. Mais du coup, ils se disent, bah tiens, on va marginaliser tout ce beau monde. Moi, je trouve que c'est pas très fair play, justement, puisqu'on évoque souvent la question du fair play financier. Là, c'est le fair play moral. Moi, je trouve que c'est pas très fair play. On a Mohamed qui est avec nous là de ce point de vue là. C'est bien ça. Le Barça est en train d'essayer de marginaliser le PSG sur la scène européenne.
Alors, c'est un petit peu plus complexe. On en parlait avec toi Arnaud hier et avec toi coach, cette fameuse coalition des clubs européens contre le Paris Saint-Germain, c'était une réflexion qui régnait au sein du club, une possibilité. Eh bien, elle existe puisque le président Bartomeu n'a pas apprécié et n'accepte toujours pas le départ quasi ficelé de Neymar au PSG. D'ailleurs, la chaîne de télé TV3 en Espagne évoque même une possible réunion demain à l'entraînement entre Bartomeu et Neymar pour essayer de le convaincre une dernière fois de ne pas rejoindre le PSG. Et Bartomeu a une influence, et notamment le Barça, très importante au sein de l'UEFA, a des relations très très proches avec le Bayern Munich par exemple, avec le président, avec Rummenigge, des dirigeants du Bayern, avec d'autres clubs anglais, notamment Manchester City, et c'est pour ça que le Barça laisse fuiter quelques informations sur le fait que ce montage financier du PSG plus que complexe serait illégal, des informations qui sont pour la plupart erronées. En tout cas, on veut marginaliser le PSG au sein de l'UEFA, marginaliser la position parisienne au sein des clubs européens. On va dire que c'est, tu l'as dit Arnaud, pas très fair play, pas très classe de la part du Barça.
Moi je trouve que moralement c'est dégueulasse.
Surtout que le Barça a par le passé très moyenne, notamment dans les transferts de certains joueurs.
Mais même quand ils ont voulu Verratti, c'était un petit peu la même histoire qu'avec Neymar. Enfin, ils sont mis d'accord, ils s'étaient mis d'accord avec le joueur dans le dos du Paris Saint-Germain.
Ça arrive souvent de se mettre d'accord avec
le
joueur.
Oui, non, mais alors qu'ils reprochent pas dans ce cas-là au PSG de faire la même chose.
Voilà. Mais je pense en plus que si dans le transfert de Verratti, il y avait eu la possibilité d'une clause, et il n'y a pas de clause pouvant aider le Barça, il est possible que cette affaire, à condition évidemment que Verratti soit d'accord, mais ils auraient tout simplement utilisé les mêmes armes qu'ont utilisé le Paris Saint-Germain, c'est s'occuper juridiquement d'un montage correct, avec des avocats. Il y a des obligations à respecter, et il y a une clause, et cette clause elle est payée et c'est tout.
Et le Barça utilise les mêmes méthodes, se met d'accord avec certains joueurs dans le dos des clubs. Le Barça négocie des très gros contrats en Amérique du Sud. Le Barça recrute des jeunes joueurs qui sont mineurs. Le Barça a les mêmes méthodes que les autres clubs européens, donc pas besoin de critiquer ou de marginaliser le PSG.
Mais évidemment que quand tu piques un joueur à un club qu'il a formé depuis l'âge de 12, 13 ans, et que tu le piques à 16 ou 17 ans, et qu'après tu es puni et suspendu, comme ce sont pas les seuls, là il y a moins de tapage médiatique que quand c'est l'un des trois meilleurs joueurs du monde, ou peut-être compte tenu de son âge, maintenant le numéro 1 au niveau footballistique, au niveau médiatique de la planète.
Mais coach, moi ce que je comprends pas, bon, que le Barça soit mauvais joueur à la rigueur, ils sont piqués peut-être Neymar alors qu'ils s'y attendaient pas forcément. Pourquoi ils essayent de mettre la Juventus Turin et le Bayern
plus costaud.
Et surtout pourquoi le Bayern et la Juve acceptent ça?
Parce que ils pensent aussi que ça aurait pu leur arriver,
Mais et quand donc... ils sont piqués Pogba par quand Paul Pogba est transféré de la Juve à Manchester United l'année dernière pour 105 millions d'euros là aussi, enfin je veux dire on parle de fair play financier, mais 105 millions d'euros faut quand même se rendre compte ce que c'est. Je suis désolé là, personne ne dit rien à ce moment-là.
Je sais pas si dans le montage du transfert de Pogba, tu vas me le dire au moment, il y avait une clause ou non?
Non, pas de clause, c'était une négociation entre les deux
donc,
parties.
Donc la Juve avait qu'à dire non, et il y allait pas.
Ouais non mais enfin bon bref moi ça me dérange un petit peu si tu veux coach de voir que
non, le
moi,
que
ce
qui me dérange je te le dis et, ouais. Et évidemment que je me moque un peu je peux quand même c'est la solidarité des enfants gâtés donc jamais ils ont pensé que ça pouvait leur arriver. Ça ce sont des choses qui ne peuvent arriver qu'aux autres.
Il y a surtout une jalousie, coach, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y a surtout une jalousie importante contre le PSG, une défiance importante, et concrètement, et c'est le cas, et le PSG a le même sentiment, plusieurs clubs européens ne veulent pas voir le PSG réussir pour rester, comme tu l'as dit, entre nous, entre grandes équipes, entre Bayern Munich, Manchester City,
mais alors justement,
Barcelone, Madrid.
C'est bien que tu viennes à Manchester City, j'allais te lancer là-dessus, Mohamed. Quand City ou United, City plus précisément, met 150 millions, 200 millions sur un mercato, ça ne gêne personne.
Oui, mais sauf que
ça
là,
ne gêne
c'est
personne.
La première
mais
fois,
City, c'est pas un club historique.
Oui,
mais c'est au même titre que le PSG.
Sauf
c'est le même
que
modèle.
C'est la première fois qu'un montage financier est aussi compliqué, aussi complexe. C'est la première fois que une clause libératoire à 222 millions d'euros. Donc c'est surtout ça. City, quand City veut un joueur, City appelle le club, négocie et lâche un très gros billet. Ça c'est vrai, on a vu 57 millions et demi d'euros pour Benjamin Mendy, mais le Manchester City ou United n'a jamais payé ce genre de clause.
En plus moi je rigole, excuse-moi, je me marre. dans le sens que je me les imagine lors de la négociation du contrat de Neymar, quand ils ont dû mettre cette clause à 220 millions, ils ont dû ricaner, ils ont dû dire on la met comme ça, mais on sait très bien qu'elle ne sera jamais payée, alors qu'aujourd'hui ils sont en train de se dire peut-être on aurait dû la mettre à 400
et coach, tu as raison, ils avaient qu'à faire comme le Real Madrid, la clause de Cristiano Ronaldo, elle est à 1 milliard d'euros, voilà, donc si on veut s'offrir à Ronaldo,
mais Messi aussi je crois.
C'est des clauses qui dépassent le milliard d'euros. Donc aujourd'hui, le Barça a mis une clause à 222 millions. Le PSG est en train de trouver un moyen de la payer. Et tant mieux pour Paris. Tant mieux pour Paris.
Tant mieux pour notre football français.
Mohamed, coach, justement, on est en ligne avec un agent de joueur, Bruno Satin. Bonjour.
Salut Bruno.
Bonjour.
Salut Bruno.
Bon, on en parlait, de ces fameuses clauses réputées dissuasives, mais on a l'impression que ce transfert-là va quand même changer pas mal de choses sur le marché des transferts, justement.
Déjà, Bruno, est-ce que tu peux nous expliquer avec précision la différence qu'il y a entre une clause qui n'est pas acceptée dans les règlements du football français, et même s'il y en a un sous-sein privé, et par contre, quand tu as un club français qui n'a pas le droit, lui, de mettre une clause pour ses joueurs, peut quand même se servir de la clause qui est dans le club où ils prennent le joueur.
Absolument. Je pense que bon, en France, c'est le droit du travail qui interdit d'anticiper une rupture de contrat. Et donc c'est pour ça que dans les textes de la Ligue nationale et donc dans les contrats, ils autorisent pas cette notion de clause libératoire, puisque c'est effectivement anticiper une rupture de contrat de travail. Donc là c'est le droit du travail qui prend le pas sur le droit du football. Et donc c'est pour ça que chez nous, elles sont interdites, ces clauses. Mmh. Par contre, bon à l'étranger, ça fait partie intégrante des accords, à savoir que lorsqu'il y a une négociation, alors naturellement, au moment où c'est signé, c'est toujours des valeurs énormes par rapport au moment où ça discute. Et donc en théorie, quand vous parliez de clauses dissuasives, elles sont censées être dissuasives, ou en tout cas elles sont en tout cas un montant très très important. Mais il faut toujours prendre le moment où le document est signé. Et donc au moment où le contrat, de, en l'occurrence de Neymar, a été renouvelé, le Barça pensait qu'ils étaient à l'abri avec un montant comme ça, parce que ça paraissait tellement énorme que personne était susceptible de venir chercher le joueur.
Mais justement, ce qu'on se dit, c'est que ce transfert-là, Bruno Satin, change pas mal de choses sur le marché. C'est peut-être la fin justement peut-être de ces clauses dissuasives quelque part.
Ouais, bah il faut reconnaître que bon, aujourd'hui on est dans un marché qui est devenu complètement fou. Il y a tellement de moyens, il y a tellement d'argent. En même temps, ce n'est que la redistribution de ce que génère le football lui-même. Hein. C'est pas aujourd'hui. Enfin, quand on met les droits télé, les recettes guichets, les recettes marketing, merchandising, tout le business qui se fait autour du football, bah naturellement après il y a une redistribution. Alors elle se fait de différentes manières. Elle peut se faire sous forme de transfert, elle peut se faire sous forme de salaire, elle peut se faire sous forme d'investissement dans des terrains, des installations, des stades. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une manne financière absolument énorme.
Ça veut dire, Bruno Satin, par exemple, Mohamed nous parlait il y a un instant de la clause de Cristiano Ronaldo à 1 milliard d'euros. Enfin, je tomberais des nues si on voyait ça, mais est-ce que ça veut dire qu'un jour un club pourrait payer 1 milliard d'euros pour s'attacher les services d'un joueur? Est-ce que c'est quelque chose de l'ordre du rêve, ou enfin du rêve, du fantasme, ou c'est envisageable?
Ça serait plus difficile. Ça serait, enfin, je veux dire, un illuminé qui aurait les moyens pourrait être tenté, mais en même temps, compte tenu de l'âge de Ronaldo, c'est assez peu probable.
Non, mais pour Ronaldo ou pour un autre, je veux dire, de payer une clause à 1 milliard d'euros.
Bah, ça serait pas tout à fait pareil. Si par exemple demain tu as un monstre de 19-20 ans. Une clause, on va toujours faire les mêmes opérations sur un plan arithmétique, une clause de 1 milliard. Et imaginons que pour amortir, il signe 10 ans. Ben, ça te ferait dans ton budget 100 millions par an pendant 10 ans. Tu trouves, bon, c'est toujours cher, mais tu trouves quand même un peu moins cher. Alors que si évidemment tu dis 1 milliard pour Sanchez qui a 30 ans, c'est sûr que...
Bien sûr, non mais ce que je veux dire par là, c'est...
Parle beaucoup.
Oui, allez-y, Bruno.
On parle beaucoup justement de la notion du fair play financier qui pourrait bloquer ceci ou cela, mais le fair play financier, enfin la règle de base, c'est que le club dépense ce qu'il génère comme recette. Donc aujourd'hui, l'éventuelle venue de Neymar, si elle est confirmée, ça va générer un afflux de recettes supplémentaires pour le Paris Saint-Germain. Ça va être considérable. Donc le PSG aura tout à fait les moyens d'intégrer ça dans sa comptabilité et de démontrer qu'ils ne sont pas en dehors des clous sur le fair play financier. Après, les montages qu'ils font, ça les regarde, mais encore une fois les autres s'alarment, c'est-à-dire que là ils ont trouvé des gens à qui parler, parce que bon, la puissance financière du PSG, c'est difficile d'y résister. Et naturellement, les grands anciens historiques dans le football européen, ils aiment pas trop quand on vient jeter une pierre dans leur jardin.
Mais là, ça veut dire quelque part, Bruno Satin, que le Barça, ils sont quand même prendre à leur propre jeu. C'est-à-dire qu'ils ont mis cette clause, Mohamed le disait, qu'ils pensaient être indébloquable. Et au final, ils se font complètement prendre à leur propre jeu, quoi.
Oui, mais bon, il y a déjà eu des cas similaires dans l'histoire du football. Hein, je veux dire, peut-être la partie aussi. Un jour, ils avaient vu que bon, le Real avait déposé le montant de la clause et puis le joueur était parti. Ronaldo aussi. Donc, c'est déjà des phénomènes qui ont existé. Hein, c'est déjà des phénomènes qui ont existé, mais. À l'époque, c'était beaucoup moins médiatisé et ça avait un retentissement moins important.
Juste une question, Bruno Satin. Je rappelle que vous êtes agent de joueurs. Le Barça, la Juve...
Agent sportif, pardon. Terminologie exacte.
Le Barça, la Juve et le Bayern veulent faire front. Concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, le Barça, la Juve et le Bayern, à part saisir l'UEFA, à part chercher des preuves? Enfin, je veux dire, il va pas y avoir une coalition des clubs. Sportivement, c'est impossible. Et qu'est-ce qui peut arriver?
Pas grand chose à mon sens, parce qu'il va falloir qu'ils mettent ça
c'est
sur
Neymar.
Le terrain.
C'est Neymar, Bruno. c'est Neymar.
Non, il va falloir qu'ils mettent ça sur le terrain juridique, quoi. Ça va prendre du temps. Et puis ça les dérange en même temps, c'est la preuve que à terme, mais peut-être à court terme, ils craignent que le Paris Saint-Germain devienne un acteur majeur et soit effectivement un candidat régulier à gagner la Ligue des Champions.
Mmh. Bon, concrètement aujourd'hui, le Paris Saint-Germain et Neymar sont OK, le Barça peut rien faire, le Barça est coincé de toute manière.
Ah ben, le jour où, de toute façon, c'est déposé le montant de la clause, ils pourront pas le. C'est ça la grande différence, par exemple, avec Sancho, qui est intéressé et qui, et pour l'instant, Arsène Wenger a dit, écoutez, le joueur, il a encore un an de contrat, et moi, j'ai pas décidé de le vendre. Mmh. Ben, donc, si le club a pas décidé de le vendre, il sortira pas. Mmh. Donc là, c'est la différence. Vous payez le montant, vous libérez le joueur, et si le joueur est OK pour venir, eh ben, il vient.
Ouais, et vous dites, le Barça, la Juve et le Bayern peuvent, voilà, porter l'affaire de manière juridique, mais là, en l'état, on est d'accord que le Paris Saint-Germain, il s'en moque. Par rapport au fair play financier.
Ah non, mais c'est pas ce qui va les bloquer. En plus, avant, ils avaient un petit argument important, c'était qu'ils étaient, partenaires, ça vous a peut-être échappé, mais c'était sponsor maillot du Barça. Le Qatar.
Oui.
D'abord avec Qatar Fondation et après avec Qatar Airways. Maintenant, c'est devenu une grande compagnie japonaise de services sur Internet. Et donc, il n'y a plus cette relation entre le Qatar et le Barça. Mmh. Donc, ça fait un argument supplémentaire pour qu'ils ne prennent pas de gants, quoi.
On avait même connu une période aussi que la fierté du Barça, c'était de ne pas avoir de sponsor.
Oui, c'est vrai.
Absolument.
C'est vrai.
Et donc, ils se sont améliorés.
Allez, merci beaucoup Bruno Satin, agent sportif, d'avoir été dans l'intégrale foot sur RMC.
Salut Bruno.
Bonne soirée.
À bientôt, au revoir.
Allez, à 17h21 sur RMC, on accueille Ahmed qui a fait le 32-16, supporter du PSG. Ça fait un petit moment qu'il attend, Ahmed. Salut.
Bonjour.
Salut Ahmed.
Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette coalition
Les trois, là. Les trois ex-présidents, ils sont tous en prison. La Juve, le Barcelone et ONS. Ils ont tous été en prison. Ça vient me faire la morale aujourd'hui, ça.
Mm.
Et, s'ils ont mis une clause à 200 millions, c'est pas la faute du Paris Saint-Germain. C'est que le président, il n'est pas à la hauteur, c'est tout. Il a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Hein.
Mm.
Voilà, c'est de la jalousie. Et c'est tout.
Tu trouves que c'est
ils n'acceptent pas qu'un club vienne au milieu manger une part du gâteau, c'est tout.
Tu trouves que c'est un petit peu les mauvais joueurs, quoi. C'est la question que je posais au départ.
Mais c'est pas d'aujourd'hui, moi je connais ce club, voilà. C'est comme qui fait dans la magouille, on a vu l'arbitrage déjà au match aller contre le match retour contre Barcelone, je suis pas naïf, moi. J'ai tout compris de suite, hein. Si l'arbitre a sens unique pendant 90 minutes, voilà. L'autre il a eu un travers, mais tu lui mets une fois, tu le manges une fois, pas deux fois, c'est tout. Et en plus ils ont venu chercher Verratti, pour les humilier. Tu les humilies pas, eux. C'est eux qui vont t'humilier. Et qui restent tranquilles parce qu'ils vont venir chercher Messi, hein. Et là il va comprendre.
Bon.
Il a mis 5 millions sur le joueur de Liverpool, là, comment il s'appelle, hein.
Coutinho.
Coutinho.
Bon, rien n'est fait, rien n'est fait. C'est des rumeurs.
Lui a le droit de mettre 5 millions, lui. Et en plus, ils ont 250 millions de dettes, mais le droit de le pognon.
Allez, merci beaucoup Ahmed, supporter du PSG, d'avoir fait le tour de. C'est un supporter bien sudiste, ça. Hein. Je crois qu'il venait du Gard, je crois, ce supporter du PSG. Juste, Momo, parler de cette histoire de fair play financier. Bon, on a bien compris que de toute manière, si le transfert aussi prenait du temps, c'est parce que le PSG voulait s'assurer que ça ne pose aucun problème. Au niveau du fair-play financier, il y a quelque chose d'autre qu'il faut prendre en compte, c'est que de toute manière, il y a une botte secrète pour le PSG. C'est-à-dire d'attaquer juridiquement le fair-play financier lui-même.
Alors, on verra, ensuite, on découvrira sans doute, peut-être, les détails de ce montage financier complexe. Une chose est sûre, le PSG a envie de réaliser cette opération coûte que coûte, et on verra dans le futur, à la fin de la saison notamment, après enquête de l'UEFA, s'il n'y a pas de problème, puisque bien évidemment qu'il y aura une enquête sur ce transfert, coach. On verra si le PSG est dans les clous du fair play financier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de dire si ce transfert est valide. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le PSG dispose de bonnes cellules juridiques, marketing, etc. Donc, s'ils travaillent sur ce dossier, c'est qu'ils sont sûrs de leur coup. Mmh. En tout cas, légalement sur cette opération. Ensuite, à la fin de la saison, il y aura l'enquête. Et on travaille pour que ce dossier aboutisse. Et ça, c'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, au PSG, on ne pense qu'à ça. Et on se dit autre chose, c'est que le fair play financier... officiellement en tout cas, il est presque illégal parce que il n'y a pas de loi, il n'est pas reconnu de manière européenne, il n'est pas reconnu à la Commission européenne, c'est une mesure de l'UEFA.
Oui.
Et si un club...
En accord avec les clubs quand même,
en accord avec les clubs, si un club s'attaque à cette mesure de manière très forte, ce qui n'a jamais été le cas. Ça a été le cas par le passé par des supporters qui ont attaqué à la Commission européenne le fair play financier.
D'accord.
Si un club s'attaque vraiment au fair play financier, eh bien l'UEFA devra répondre du bon fondement de cette mesure. Mmh. Et c'est pour ça que le PSG a aussi cette petite carte en main de se dire on peut peut-être rendre caduque le fair play financier.
Coach.
Ben écoute, dans tous les cas, en ce qui concerne le fair play financier, je me suis positionné depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois. C'est quelque chose que je n'ai toujours pas compris. Hein? Parce que c'est bien gentil de vouloir empêcher les clubs de dépenser de l'argent. Argent qu'ils ont. Et ils en ont envie en plus de le dépenser. Mais si on a bien compris le fair play financier, si je l'ai bien compris, après si j'ai mal compris, ben il faudra me l'expliquer et j'essaierai de faire des efforts. Tu t'imagines que si tu as un investisseur qui arrive avec 500 millions d'euros, qui va dans un club, allez, sympathique, mais modeste, comme Laval, mmh. et qui a envie que Laval devienne un grand club, et bien si on suit les obligations du fair play financier, ils ne peuvent pas dépenser 500 millions d'euros pour Laval. Mmh, mmh. Parce que Laval ne générera pas des recettes pour pouvoir dépenser cet argent-là.
Oui.
Donc, excusez-moi quand même que là, c'est une solidarité malsaine mmh. de gens qui ont peur justement qu'il arrive des plus riches qu'eux et qu'ils arrivent à monter des équipes supérieures aux leurs. Et là, dans cette affaire-là, qu'on puisse faire d'une pierre deux coups et de se servir de l'affaire Neymar pour le fair play financier, mmh. mais une fois de plus, c'est pas une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Ça.
Juste pour terminer sur ce débat, coach, on pose la question hein, sur le site, sur le Twitter, le compte Twitter de RMC Sport, à savoir le Barça méprise-t-il la Ligue 1 ? Vous nous dites à 71% oui. Est-ce qu'il y a une forme de mépris de la part du Barça, de la part des grands clubs, de la part du foot espagnol de manière générale envers notre championnat ?
Ben moi, je vois plutôt, comme je te l'ai dit, alors évidemment, je mets un petit peu d'ironie, c'est la solidarité des enfants gâtés. Ils n'arrivent pas à supporter certaines choses parce qu'ils n'en ont pas l'habitude. Ils s'étaient pas imaginé qu'un truc comme ça puisse leur arriver. Eh ben, écoute, c'est pas le cas. Ils se sont trompés et tout le monde peut se tromper.
Très bien, coach. On continue dans un instant cette intégrale foot jusqu'à 18h. Toutes les infos mercato. On a longuement parlé de Neymar. On va parler un petit peu du reste, hein, de ce qui se passe dans le marché des transferts estival. Mohamed Bouafsi sera avec nous 17h27. Restez bien avec nous sur RMC.
RMC, intégrale foot. Roland Courbis, Arnaud Souk.
17h29, vous êtes bien dans l'intégrale foot sur RMC. On va faire un petit point mercato dans quelques petites secondes. On attend Mohamed Bouafsi qui est censé nous le faire ce petit point mercato. Tiens, juste coach, je voulais revenir avec toi
oui.
sur Neymar. C'est quand même juste énorme quand on y pense de faire venir Neymar en Ligue 1 et surtout de piquer un tel joueur au Barça.
Ah ben c'est une bombe.
C'est incroyable.
Ça, c'est sûr que c'est pas seulement la bombe de l'intersaison. Et c'est tout simplement la bombe numéro un, la bombe atomique de tous les transferts, mmh. autant par le montant du transfert que par son montage.
Allez, coach, on va parler du reste de l'actu mercato, c'est le mercato show.
RMC, le mercato show.
Mohamed Bouafsi. Et Mohamed, tu as un nouveau joueur à la SSO, enfin peut-être en tout cas à la Saint-Etienne.
C'est fait, puisque Arnaud, la SSO s'est offert le milieu de terrain d'Empoli, Hassan Djous. Il a signé un contrat de 5 ans, coach, le transfert avoisine 5 millions d'euros. Milieu de terrain défensif, non, 5 millions.
Oh. Wow.
Tu le connais bien en plus, Hassan Djous.
Ouais. ouais, pas cher.
Là,
d'un coup, tu nous fais passer de Neymar à un joueur qui s'est transféré.
Tu t'es pas mouillé la nuque.
Ah, bah là, il fallait se mouiller la nuque, là, ouais.
C'est vrai
que plus sérieusement,
ça fait drôle.
Pour les supporters de l'AS Saint-Etienne, coach, c'est un milieu récupérateur qui joue sur le côté gauche. Il a fait une bonne saison du côté d'Empoli la saison dernière. Il est capable, voilà, il ratisse pas mal, très gros abattage au milieu de terrain.
Quel âge?
Il a 19 ans.
Ah ben non, c'est mieux ça. Voilà. Mais on va le suivre attentivement, mon petit Momo.
On va le suivre d'ailleurs comme on suit attentivement le mercato de la Saint-Etienne. On en parlait hier dans l'after avec Daniel Riolo et Alpha Baldé. Le mercato pour l'instant de Saint-Etienne qui est quand même assez compliqué, coach. Et on se demande un petit peu où ils vont, les Stéphanois. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient pris 3-0 face à Southampton en match amical avec un 11 qui allait être relativement similaire à celui qui évoluerait en Ligue 1, en tout cas au début du championnat.
Ouais, mais des fois, tu sais, l'arrivée de deux voire trois joueurs change beaucoup de choses. Donc laissons terminer le recrutement, le mercato, il y a encore un mois, donc on verra la nouvelle tête des Stéphanois dans quelques semaines.
Tiens, justement, les Stéphanois, un ancien Stéphanois, Franck Tabanou, tout proche de Guingamp, apparemment.
Oui, puisque l'en avant de Guingamp a confirmé l'arrivée de Franck Tabanou, le joueur de 28 ans prêté ses dernières saisons à Saint-Etienne et Grenade par Swansea, a passé sa visite médicale. Il a signé son contrat avec la formation bretonne.
Alors, il est capable de bon et de moins bon, Franck Tabanou, mais c'est quand même un joueur assez intéressant, hein, notamment en termes de vitesse. On l'avait vu apporter pas mal à l'époque sur les ailes du TFC.
Oui, c'est un joueur que je trouvais très intéressant, pouvant jouer arrière gauche et un poil plus haut aussi. Et je crois qu'il y a eu une certaine blessure à un moment qui l'a freiné dans sa progression, mais il passe à côté, bon, même s'il n'est pas terminé, il a 28 ans, tu viens de dire. Il passe à côté d'une carrière, je le trouvais très prometteur.
Il y a surtout un coach à Swansea qui lui a un peu menti, qui lui a dit viens à Swansea, je compte sur toi, et finalement qu'il a pas fait beaucoup jouer, et ça c'est quand même assez difficile à accepter pour lui.
Ben oui.
Mohamed, on continue ce mercato chaud. Jesús Navas qui revient à Séville.
Ouais, il fait son comeback. Le milieu de terrain de 31 ans a signé pour 4 saisons avec le FC Séville. Il avait débuté sa carrière pro là-bas, coach, en 2003, avant d'y passer 10 saisons et de rejoindre Manchester City.
Ben oui, mais ça, je trouve que c'est sympa ce retour dans le club qu'il a formé, et on va suivre ça aussi.
Ce qui est bien, c'est qu'il arrive libre en plus.
Oui, et donc il doit arriver aussi motivé. Donc ça, c'est bien. Et le FC Séville se débrouille toujours de mettre en place des équipes compétitives.
Ah tiens, puisqu'on parlait du mercato de l'AS Saint-Etienne, je me permets d'y revenir. On a Hervé qui a fait le 32-16. Salut Hervé.
Salut Arnaud, salut coach.
Salut Hervé. Supporter de la SSE. Ouais. T'avais un petit mot à dire par rapport à cette nouvelle arrivée à Saint-Etienne?
Eh bien oui, Saint-Etienne, de toute façon, le mercato se fait avec les moyens du bord. On n'a pas la puissance financière que peuvent avoir d'autres clubs en Ligue 1 ou ailleurs. Il faut avoir le nez creux, il faut faire des bons coups. On y était arrivé il y a 5-6 ans avec le départ de l'arrivée de Galtier plutôt. Et voilà, des joueurs qui évoluent en France, des joueurs qui avaient gagné des titres ailleurs, des joueurs qui avaient été capitaines ailleurs. On a un petit peu perdu, je dirais, le Galtier flair depuis quelques saisons où on a eu quelques bides. Là, cette année, moi personnellement, je connais pas grand chose des joueurs qui arrivent. Hassan Diousse, je connais pas, alors je me suis un petit peu renseigné. Bon voilà, c'est des profils un petit peu comme les voulait Oscar Garcia, c'est-à-dire voilà, du coffre, un petit peu de technique, l'envie d'aller vers l'avant. Voilà, je crois que c'est ce qu'on va attendre de toute façon de la part des joueurs qui vont arriver à Saint-Etienne, donc Diony qu'on connaît un petit peu mieux. Mais je crois que c'est, voilà, on l'a dit, Saint-Etienne cette année, les ambitions vont être mises un petit peu entre parenthèses. Il va falloir remplaner un petit peu ce chaudron, refaire du jeu un petit peu plus attractif. Mais encore une fois, sur le mercato, on fait encore une fois avec les moyens du bord. Et moi, je suis plutôt très fier d'être supporter d'un club qui, allez, dans la mesure du possible, parce que quand on est même à 90 000 euros, c'est quand même des sommes assez énormes. Mais je suis assez fier, moi, du salary cap, même s'il limite pour l'instant le mercato et la progression du club. Voilà, moi je vous dis, ça me rend plutôt fier et je serais jaloux si c'était un autre club qui avait ce salary cap en fait.
Et donc, et si te débarque Neymar?
Ah, s'il me débarque Neymar, coach.
Avec le salary cap?
Ah, bah avec le salary cap, s'il veut venir, il n'y a pas de souci. Hein.
Ouais.
Mais bon, après, je suis tout à fait d'accord que ça limite pour l'instant la possibilité de Saint-Etienne de réaliser des gros coups au niveau du mercato.
Bah oui. Ça empêche d'ailleurs, tu sais qu'ils cherchent des investisseurs depuis un petit moment. Hein,
ils ont mandanté une banque. Exactement. Là où ça risque de poser souci, c'est qu'ils ne veulent pas d'investisseurs majoritaires, si j'ai bien tout compris.
Oui, mais...
Et donc c'est vrai que ça risque d'être un petit peu compliqué de faire venir des gens. Moi, ceci dit, si demain je gagne au loto, je veux bien aller être... investisseur minoritaire à la FSE. Il n'y a pas de souci.
C'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci Hervé d'avoir fait le 32-16.
Salut.
Supporter de la Saint-Etienne. Tiens, on continue ce mercato avec Nice qui décidément est pas cherche toujours son coup sympathique comme il l'avait fait l'année dernière avec Mario Balotelli qui serait intéressé par un certain Samir Nasri. Mohamed,
on a entendu parler de Wesley Sneijder ces derniers jours, l'OGC Nice qui cherche un meneur de jeu, un numéro 10, et l'OGC Nice qui discute avec Samir Nasri. Selon Nice ce matin, Nasri pourrait quitter Manchester City et Nice serait tenté de le relancer. Il a été prêté la saison dernière au FC Séville, mais son prix reste encore très élevé pour l'OGC Nice, 10 millions d'euros selon Nice.
Pardon coach, mais entre Samir Nasri et Atem Ben Arfa qui ont quand même des profils relativement similaires, tu m'arrêtes si je me trompe, mais Nice, ils veulent pas faire revenir Ben Arfa parce que soi-disant là il y a trop à payer, et là ils seraient intéressés par Samir Nasri, je comprends pas bien.
Bah c'est pas tout à fait quand même le même profil, même si on peut les mettre dans la catégorie de milieu offensif. Non, je vois Ben Arfa plus attaquant et je vois Nasri plus meneur de jeu. Donc c'est vrai, après le montage financier on ne le connaît pas exactement, mais pour que Nasri puisse tomber d'accord avec les Niçois, il faudra que ça se passe comme pour Balotelli, que son club mette une grosse partie de son salaire.
Allez, on continue avec Mohamed, le mercato show. À ma vie, on approche et Dolberg surveillé.
Selon France Football, Monaco sera intéressé par le profil de l'attaquant de l'Ajax Amsterdam, Kasper Dolberg. Et par ailleurs, toujours sur l'hebdomadaire, Jordan à ma vie intéresse l'AS Monaco.
Coach.
Ben oui, à ma vie, c'est un garçon qui, pour le moment, n'a pas encore explosé sur une année régulière, mais il y a eu, tu me dis si je me trompe au moins, une blessure au mauvais moment,
oui.
Une blessure assez grave, et c'est vrai que ce joueur-là, on le trouvait très prometteur, donc s'il revient à 100% de ses qualités, ça peut être une très très bonne idée de Monaco.
Otavio, proche de Bordeaux, Mohamed.
Oui, selon Sud-Ouest, le brésilien Otavio Henrique Santos serait proche de s'engager avec Bordeaux après la signature avortée de Wellington Silva et la visite médicale ratée. Les Girondins tiendraient enfin leur renfort, sous réserve néanmoins de valider le départ de Pablo au Corinthians.
Bon là, les Bordelais, on le disait, on en a parlé brièvement, on en parlera plus longuement avant le troisième tour préliminaire retour de l'Europa League. Ils ont quand même besoin aussi d'avoir un petit peu plus de certitude, coach. Ça leur en apporterait ça ou pas?
Mais peut-être, parce que bon, le recrutement n'est pas terminé. Il y a eu ce problème avec ce joueur qui a été recalé à la visite médicale. Donc il semblerait quand même que un voire deux joueurs supplémentaires pour Bordeaux, si en plus ils font carrière en Europa League, chose qui n'est pas aujourd'hui certaine, puisque
oui.
il va falloir se qualifier après avoir gagné seulement 2-1. Donc c'est vrai que là aussi on attend tranquillement à la fin du mercato pour pouvoir bien commenter ce mercato bordelais.
Mohamed, Riyad Boudbouz a enfin trouvé sa destination vers le Betis Séville.
Il devrait quitter Montpellier dans les prochains jours. Coach sera content. L'international algérien doit signer en Espagne et plus précisément au Betis Séville. Ce départ est un coup dur pour Michel Derzakarian, l'entraîneur du club montpelliérain, juste avant la reprise du championnat.
Un coup dur, coach.
Ben un coup dur. Déjà dans les matchs amicaux, il ne participe pas parce qu'il s'est légèrement blessé au genou. Mais c'est vrai que pour l'honneur, voir partir Riyad Boudbouz, c'est pas une très très bonne nouvelle. Mais des fois, tu es obligé de faire ce que tu aurais pas envie de faire parce que ton club est obligé de réaliser certaines transactions.
Tiens, justement, on va demander son avis à Adrien, supporter de Montpellier, qui a fait le 32-16, supporter de la Paillade. Salut Adrien.
Salut à vous.
Salut Adrien.
Bon, ce départ de Boudbouz, plus généralement le mercato montpellien et l'équipe qui s'apprête à disputer cette saison de Ligue 1, t'en penses quoi?
Bon, déjà, elle me plaît un peu plus que celle de l'année dernière, donc je trouve qu'on a fait quand même un mercato. On a recruté, au poste dont on avait besoin, que ce soit un gardien de but, derrière, au milieu, même si on n'a pas trop recruté au milieu. Bon, en attaque aussi, on a pu récupérer Ikoné, on a eu Benza au dernier mercato. Bon, on a recruté Sio, même si c'est bon.
Giovanni Sio,
ouais, je sais. Bon, il m'a fait une bonne impression contre Lyon. Après, c'est vrai que c'est pas non plus un attaquant que j'aime beaucoup, mais je lui laisse la chance, aucun problème. Par contre, il a associé à Berigo. Ça va être un problème si Boudbouze, justement, si la Boudbouze s'en va, c'est-à-dire que on a aucun créateur de jeu, quoi. Mmh. Donc, va falloir que c'est dommage que Sliti ait prêté, par exemple, que Lille ait prêté Sliti à Dijon, parce que Sliti aurait été un bon remplaçant à Boudbouze. Et malheureusement, j'espère que Boudbouze restera et que même si Momo a dit que ça allait se faire, Montpellier en propose de 15, enfin on demande des 15 et le Bétis vient avec 8 millions, donc on passe encore pour des entre guillemets pour des cons. Et,
mais c'est pas encore sûr que ce soit conclu.
Voilà,
c'est pas encore fait.
C'est pour ça que je dis c'est pas encore fait, et sachant que Riyad lui serait vraiment content aussi de rester à Montpellier, j'espère qu'il prendra cette décision parce qu'on a besoin de lui. Voilà.
Mais écoute Adrien, que ce soit coach ou moi, on aimerait bien qu'il reste à Montpellier.
Bien sûr, c'est un joueur très technique avec un beau pied gauche. Et je sais que Roland apprécie autant que moi.
Ben oui, tu vois, j'étais à l'origine de sa venue.
Merci beaucoup Adrien d'avoir fait le 32-16 supporter de Montpellier. On te souhaite la meilleure saison possible. On continue, on termine avec ce mercato show. Mohamed Alexis Sanchez qui est bien à Arsenal, on en a la preuve.
Hein. Oui, il est arrivé à Londres et il s'est entraîné ce matin avec Arsenal. Et Arsenal a bien communiqué sur le retour d'Alexis Sanchez avec un petit mot. Et bienvenue à la maison, plusieurs photos sur Twitter. Arsenal qui a posté des photos sur tous les réseaux sociaux du club. Avec une photo notamment d'Alexis Sanchez, un énorme sourire pour le finir.
Ça veut dire qu'il va pas venir au PSG.
En tout cas, le PSG n'a plus de contact avec lui.
D'accord.
Ni son entourage.
Coach.
Bah écoute, ça m'étonne quand même que Arsenal n'engage pas, chose qui va peut-être être le cas, une prolongation de contrat, parce que un joueur de 30 ans avec une année de contrat et la possibilité de récupérer une cinquantaine de millions sur une année de contrat. Mais ils sont vraiment tous très riches pour pouvoir se permettre ça.
Allez, on termine avec le Milan AC, André Gomes, plutôt que Renato Sanchez, Mohamed.
Oui, puisque ces derniers jours, la piste menant à Renato Sanchez est devenue brûlante, mais Carlo Ancelotti compte sur lui et d'autres clubs sont à l'affût. Du coup, les rossoneries n'écartent pas un possible échec et songent à un plan B. D'après Calcio Mercato, le club lombard aura un œil sur un Portugais, André Gomes, même si aujourd'hui, clairement, la piste la plus chaude, c'est Renato Sanchez et lui a envie de rejoindre Milan.
Je sais que tu l'adores, Renato Sanchez, coach.
J'aime bien.
Non, mais je sais. Je me souviens qu'on en avait parlé l'année dernière avant l'Euro du jeune Portugais. Et je me souviens que tu en faisais les louanges.
Que tu me dises qu'il a 18 ans, ça m'étonne un peu.
Pourquoi?
Parce que je me l'imagine plus âgé que ça.
Bah, c'est toi, Mohamed, qui a dit qu'il avait 18 ans?
Oui, mais...
Non, c'est ça. Hein.
C'est ça.
18 ou 18?
Bon, il est né en 97.
97, bon, il a 19 ans.
19 ans.
Voilà, il vient tout juste d'avoir 19 ans.
Hein? 19 ans.
À quel endroit il est né?
Il est né.
À Lisbonne.
Il est né, Lisbonne, c'est ça.
Ok.
C'est bon, coach?
Bah ouais, mais écoute, il a 18 ans.
Allez, on remercie Mohamed pour toutes les infos Mercato. Coach, nous, on continue dans un petit instant l'intégral foot jusqu'à 18h sur RMC. On va parler du SC Bastia. Tu sais que le club passé aujourd'hui devant la DNCG, c'est de plus en plus dramatique ce qui se passe à Bastia, parce que là, c'est carrément pour faire valider un budget pour pouvoir évoluer en national. Bon, on va en parler dans un petit instant. À tout de suite.
RMC, intégral foot, Roland Courbis, Arnaud Souk.
17h46, vous êtes bien sur RMC dans l'intégral foot, dernière ligne droite, mon coach Courbis.
Oui.
On va aller, si tu le veux bien, en Corse.
Bah oui.
Eh oui, on est en ligne avec Anthony Luciani, le président de l'association des socios de Bastia. Bonjour Anthony Luciani.
Bonjour
Anthony.
Et merci d'être avec nous. On vous avait déjà eu hier dans l'after, mais bon voilà, tous ceux qui écoutent l'after n'écoutent pas forcément l'intégral foot, et c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Juste pour rappeler, coach, il y avait aujourd'hui, on attend une décision hein, d'un instant à l'autre, un communiqué de la fameuse DNCG, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, à propos de l'avenir du SC Bastia et notamment de ce budget qui permettrait ou pas d'évoluer en national. D'après ce qu'on entendait, ça sentait quand même pas très très bon.
Ah ouais, là, ouais, c'est clair, ça sentait même le roussi. Apparemment, les dirigeants, nos dirigeants, nos génies, seraient montés auraient sorti la panne de leur chapeau et seraient montés soi-disant avec des garanties. Bon, non, enfin bon, comme à chaque fois qu'ils montent avec des dossiers béton, à chaque fois on est rétrogradé ou on gagne pas de dossier, donc je m'attends pas à grand chose, je m'attends au pire.
Quoi. Anthony,
mais disons que
oui.
dans une certaine logique, un programme pour sauver Bastia en Ligue 2 avec les droits télé de Ligue 2, je pensais que ça allait être possible, mais là, en national, je trouve que c'est encore plus compliqué que de trouver des solutions en Ligue 2.
Alors justement, vous proposez une solution, alors pas pour jouer ni en Ligue 2 ni en national. Anthony Luciani, vous avez fondé donc cette association des socios Bastiais. On rappelle, hein, vous êtes vous-même un supporter. En fait, vous avez lancé une souscription auprès de tous ceux qui veulent bien y adhérer, c'est-à-dire devenir socios sur le modèle espagnol. On verse une cotisation annuelle. Et là, vous avez déjà de 50 euros. Et là, vous avez déjà recueilli plusieurs dizaines de milliers d'euros en même pas 72
heures. Alors écoutez, on en a mis ça samedi midi, on a lancé ça samedi midi, et en 3 jours, donc allez, on peut dire 3 jours, on flirte avec les 2500 socios, et on a récolté 115 000 euros ou des choses comme ça.
115 000 euros, pourquoi faire?
Ouais.
Expliquez-nous, Anthony Luciani.
Dans un premier temps, vous dites que National 3, non, au départ, quand on a fait ça, c'était après le deuxième appel de la NDCG, et quand il y avait les nouveaux repreneurs. Nous, on voulait même peut-être investir avec de nouveaux repreneurs dans le centre de formation. Au départ, on voulait faire ça. Même s'il y avait de nouveaux repreneurs avec Fred Antonetti, tout ça, nous, on aurait aimé mettre cet argent dans quelque chose. Voilà, construire quelque chose dans le centre de formation. Ou... Mais après, vu que les catastrophes s'accumulaient, maintenant, il y a de moins en moins de repreneurs, il y a de moins en moins de... Donc cet argent, maintenant, j'ai l'impression... que ça me donne que de plus en plus, ça va être pour la survie du club, pour sauver les équipes de jeunes, et pour peut-être monter un budget en National 3.
Mmh. En CFA 2, enfin l'équivalent de la CFA 2, de la 5e division.
Et l'équivalent, voilà, l'ancienne CFA 2, nouvellement National 3, voilà.
Mmh. Vous discutez avec des, je sais pas moi, on avait parlé de repreneurs, de Frédéric Antonetti, on avait parlé de Pierre-Noël Luigi, le PDG d'Oscaro, qui est le sponsor principal aujourd'hui du SC Bastia. Vous, je sais pas, vous discutez avec des joueurs, des anciens joueurs du club peut-être, pour justement apporter, enfin mettre en commun votre vos projets.
Ben exactement. Mais là, il y a maintenant, vous savez qu'après, quand le vent il souffle, quand c'est parti, là, c'est, je pense que c'est parti. Il en a franchi le, du moment qu'on avait franchi les 2000 socios. Et la somme, bon, même si j'aime pas beaucoup parler d'argent, la somme de 100 000 euros était dépassée. C'est un raz-de-marée, maintenant ça monte. Mmh. Là, on est, ça monte bien, donc beaucoup d'anciens joueurs se réveillent, nous contactent. Des repreneurs, il y avait un repreneur qui m'avait appelé à moi quand il est passé devant le CNOS, que si ça aboutissait, même en Ligue 2, il aurait discuté avec nous. Mmh. Et là, il se trame, mais bon, là, officiellement, on n'a pas encore d'offre d'un repreneur, mais nous, ça va être... La condition sine qua non, c'est que si le club est par catastrophe descend National 3 et rétrogradé, on voudrait le reprendre avec un repreneur. Parce que les supporters, comme je l'ai dit hier soir, n'ont pas vocation à gérer un club de football.
Alors justement, votre gardien, Jean-Louis Lica, s'est porté lui-même, je crois, c'est fait partie de l'association, hein, des socios. Hein. Il a versé la cotisation.
Ah, des socios, non, mais Jean-Louis Lica, comme plein d'autres, comme Jérémy Chopin, comme Réad Boudebouze, comme Maoulida. Mm. Ils ont tous mis 50 euros, même des joueurs qui ont joué un an. Mm. Beaucoup de joueurs ont adhéré, hein. Cahuzac, cet après-midi, d'anciens joueurs, d'anciens entraîneurs, Gislain Printemps.
Ouais.
Et qui a même son fils, Florian Printemps, qui est pourtant sur la formation de Montpellier, qui a mis hier, j'ai vu qu'il a souscrit, c'est fantastique.
Bon, l'idée pour vous, c'est en quelque sorte de pouvoir rentrer dans un conseil d'administration du club, donc de ce SC Bastia, de pouvoir peser sur les décisions. Maintenant, d'assainir, de repartir sur des bases saines, je veux dire.
Ben maintenant, si tout à l'heure, si dans la journée on apprend que Bastia est en dépôt de bilan, parce qu'on risque le dépôt de bilan, pur et simple, comme dit Roland, en National 1, si le budget n'est pas validé, c'est directement un section amateur, là, on repart plus, y a plus de recours, là. Mmh. Donc, s'il n'y a pas de recours en National 3, il faut bien sauver le club, on va pas le laisser mourir, ce club.
Même
si on
joue
le maintien, mais au moins... Pardon ?
Sauver l'emblème, sauver l'écusson, quoi.
Ah ouais, mais sauver au moins la National 3, jouer repartir avec des jeunes, sauver les équipes de jeunes... Et jouer au moins National 3, au moins pour sauver le club. Je pense qu'avec un budget de... Je crois qu'en National 3, on s'est bien renseigné, parce qu'après, on a avancé. C'est entre 500 000 et 600 000 euros un club de CFA 2. Après, ce qui se pose un problème, c'est qu'il y a le centre de formation pour le sauver, mais après, on pourrait avoir des aides voilà, de la CTC ou des collectivités. Mais on a fait ça pour sauver le club.
Très bien. Merci beaucoup, Anthony Luciani, président des socios Bastiais. Le mot du coach.
C'est ce qu'on souhaite, sauver ce club, parce que c'est vraiment... une fin très très triste si, ouais. si c'est la fin.
Bah tiens, justement, on accueille Jonathan, supporter du SC Bastia qui a fait le 32-16. Salut Jonathan.
Oui, bonjour à tous.
Salut Jonathan.
T'as entendu ce qu'il disait le président de l'association des socios. Toi, tu es rentré dans le projet, hein?
Oui, bon, d'une part, Anthony, je le connais très bien, c'est un ami de longue date, donc j'ai suivi tout ça de très près. On en discutait même avant que ça se mette en place. Et bon, il est clair que, comme il dit, oui, il faut sauver ce qu'on peut sauver, quoi, hein, parce que moi, je suis pessimiste quant à la reprise en national 1. Donc, il faut repartir coûte que coûte quelque part. Parce que si on repart nulle part, c'est terminé, il y a tout qui s'efface. Donc il faut repartir National 3 parce que c'est la nouvelle dénomination, division d'honneur, j'en sais rien, mais quelque part il faut repartir, il faut garder l'entité toujours vivant et après ça mettra les années que ça mettra. Après on sait pas comment ça va se passer, hein. Parce que bon, lui il dit 600 000 euros, entre 600 000 et 1 million d'euros pour avoir un budget cohérent et ambitieux pour essayer de rebondir au plus vite. Parce que si vous repartez en National 3 et que vous végétez en National 3 pendant X années,
mais oui. Après,
c'est compliqué.
Il y a l'exemple de Strasbourg aussi qui avait justement été rétrogradé, alors peut-être pas tout à fait pour les mêmes raisons, mais à peu près selon le même modèle en CFA2 à l'époque et qui finalement a réussi à remonter assez rapidement.
Ouais, bon, Strasbourg, c'est
5-6 ans pour remonter 6 divisions, c'est quand même relativement rapide, coach, non?
Oui, mais c'est ouais. Excusez-moi, mais c'est pas tout à fait semblable Strasbourg et Bastia.
Absolument.
Bon, eux, ce qui les ont sauvés, c'est l'engouement populaire, puisque
je me rappelle
qu'ils faisaient 10 000, 20 000 sur des pointes en championnat de CFA.
Ouais, ouais.
Ça permet d'aider le club. Nous, on a une population un peu plus restreinte. Mais je veux prendre, Roland, il le sait, hein, je veux prendre le cas de la CA. La CA, il a disparu du giron professionnel, il est reparti en PHA. Et il n'y avait plus rien là aussi, mais ils ont réussi à garder l'entité RCA.
Ouais,
donc après il y a eu Michel Moretti qui est arrivé.
Une dizaine d'années pour remonter.
Ça a mis une dizaine d'années, mais entre la chute de la CA qui est tombée à fin des années 70, si je me souviens à peu près, et la remontée en professionnel, il s'est passé 20 ans.
Ouais.
Au plus que ça. Ouais.
Donc après il faut avoir un socle solide, des fondations pour repartir sur un autre modèle économique, et c'est surtout ça où il faut travailler. Hein. Je l'avais dit lors d'une précédente émission, mais le Sporting ça a toujours eu des problèmes financiers, même quand sportivement ça allait bien, on n'a jamais réussi à se projeter pour asseoir ce socle là pour le rendre un peu plus solide en cas de mésaventures sportives. Donc là, il faut travailler dessus. Sur quelle division, je sais pas, mais il faut qu'on soit là.
Merci Jonathan, supporter du SC Bastia, d'avoir fait le 32-16.
En tout cas, c'est ce qu'on souhaite.
Merci à vous.
Et bon courage pour les saisons qui s'annoncent compliquées. Ouais, c'est vrai, coach. Juste pour terminer,
c'est triste.
C'est d'une tristesse infinie quand même de voir Bastia en arriver à ce niveau-là.
Moi, j'ai toujours l'image de Bastia de cette finale. En 78, là,
de PSV Eindhoven, c'est ça?
Ben, oui, de Coupe d'Europe. Bon, bref, c'est quand même, dire que c'est dommage, c'est une évidence.
Très bien, merci coach, on se retrouve demain.
Salut.
On se retrouve demain évidemment pour l'intégral foot. On continuera à parler de Neymar, on continuera à parler de l'actu foot, la reprise de la Ligue 1. Vous oubliez pas d'ailleurs également que tout au long de la semaine, hein, c'est les clubs européens qui jouent. Hein, d'abord demain 20h45 le match de Nice à l'Ajax Arena face à l'Ajax Amsterdam, 20h45 sur RMC. Troisième tour, retour préliminaire de la Ligue des Champions à l'aller. Un but partout entre les deux clubs. Georges Quirino nous fera vivre ça. Et puis jeudi 19h, Vidéoton qui reçoit Bordeaux, ou plutôt Bordeaux qui se déplace en Hongrie à Vidéoton. Victoire à l'aller 2-1 des Bordelais dans ce troisième tour préliminaire de l'Europa League cette fois-ci. Et puis un autre match retour, celui de Marseille cette fois-ci face à Ostende. À Ostende en Belgique, Marseille qui s'est imposé 4-2 au match aller devrait a priori en toute logique ne pas avoir trop de mal à se qualifier pour les barrages de cette Europa League. Évidemment, on en reparlera tout au long de la semaine. 17h57, c'est l'heure de laisser la place à Jeff Morel. À l'intérieur. Intégral Sport. Salut Jeff.
Salut Arnaud, ce sera avec Olivier Giraud comme tous les soirs et évidemment Paris 2024 au cœur de l'émission avec de très nombreux invités. On aura Bernard Laporte, le président de la Fédération Française de Rugby qui sera avec nous. On aura également Bernard Lapassé, le co-président de la candidature de Paris 2024. Sans oublier, juste après les infos de 19h, Laura Flessel, la ministre des Sports. Donc vous posez vos questions au 3216 et sur le hashtag RMC Live. Et de 19h à 20h, du foot avec le transfert de Neymar et les dernières news. Il en parlait il y a quelques instants, Arnaud, avant le match de demain entre l'Ajax et Nice.
RMC Intégral Foot.